Bonjour à tous. Je vais vous parler d'une exposition qu'on a conçue, réalisée, portée au Musée d'histoire naturelle de Lille, que je dirige et qui s'appelle Identité. Donc là, vous avez l'affiche. C'est une exposition qui a eu lieu l'année dernière, qui s'est terminée finalement assez récemment, au tout début de l'année. Avant de vous parler de l'exposition en tant que telle, je vais un petit peu vous présenter le musée. Vous parlez un petit peu de nos collections et la façon dont on travaille. J'ai entendu dans l'introduction de Jacqueline que effectivement c'était exactement la façon dont j'avais orienté cet exposé, parce que avant de dire exposé, mais qu'est-ce qu'on expose ? Donc le musée d'histoire naturelle de Lille, donc d'abord c'est un musée municipal de la ville de Lille qui conserve, comme beaucoup de musées d'histoire naturelle, des quantités d'objets et de spécimens qui dépassent parfois l'entendement par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans les musées plus beaux-arts. Donc à peu près 450 000 objets, spécimens, avec le récollement, ces chiffres varient un petit peu au quotidien, mais on devrait arriver à avoir un tableau complet. Quatre collections. Alors, les collections classiques d'histoire naturelle, des collections de zoologie, alors à peu près 210 000 spécimens. Donc, ça va du squelette de cachalot qui fait 10 mètres de long jusqu'à des insectes ou des petites coquilles de gastéropodes, d'escargots qui font quelques millimètres. Des collections de géologie, à peu près 185 000 échantillons, spécimens, avec du gros, du moins gros, des météorites, des squelettes d'ours, des cavernes, etc. Une collection d'ethnographie extra-européenne, dont je vous parlerai un petit peu plus, puisque c'est elle qui est exposée. C'est notre petite collection, il n'y a que 13 000 objets. Et puis une collection de sciences et techniques, qui témoigne de l'histoire industrielle de la région, avec à peu près 40 000 objets. C'est un musée qui est relativement petit. Nous exposons nos collections sur à peu près 1500 m2. Si on estime à peu près le ratio exposé-non exposé, on est à 2 ou 3% d'objets exposés. Pourtant, Dieu sait qu'on a des vitrines remplies d'oiseaux, qui sont d'ailleurs pas très lisibles pour le public, mais ça c'est un autre problème, je vous parlerai pas d'exposition permanente. Et puis, une salle d'exposition temporaire qui est très modeste, puisqu'elle fait 200 m2. Donc nos expositions, en fait, en partant de ce constat que la plupart de nos collections sont en réserve, il se trouve que dans les expositions permanentes, on ne présente que la zoologie et la géologie, parce que historiquement, en fait, les deux autres collections ont été intégrées au musée d'histoire naturelle dans les années 90, et que, pour dire les choses très clairement, la muséographie des collections permanentes, qui se compose de, en fait, une très grande salle et deux petites salles, a très peu changé. Et aujourd'hui, c'est compliqué d'enlever des objets de zoologie et de géologie pour créer éventuellement un espace d'exposition pour les deux autres collections qui sont plus sciences humaines. Donc l'ethnographie, les sciences et techniques ne sont exposées qu'à l'occasion d'expositions temporaires. Donc la façon dont on travaille, c'est véritablement de dire nos expositions temporaires sont conçues uniquement à partir de nos collections. Nous ne faisons que très très peu d'emprunts à d'autres établissements. Et donc c'est vrai que le propos des expositions est aussi conduit par ce dont nous disposons en réserve. Et on adapte le discours, le parcours à nos collections. Pour qui est-ce qu'on expose ? La ville de Lille, c'est une ville qui est dans une métropole de un peu plus d'un million d'habitants. La ville elle-même ne comporte que 220 000 habitants, ce qui n'est pas beaucoup. Le musée d'histoire naturelle reçoit en moyenne 70 000 visiteurs par an, avec très rapidement 75% des visiteurs qui viennent de la métropole. Même 50% des visiteurs sont des Lillois. Nous recevons par lycée 70 000 visiteurs, 35% de scolaires. Et si on regarde nos chiffres, nos statistiques globales, on peut estimer à peu près 60% de visiteurs de moins de 25 ans. On a beaucoup de visiteurs qui viennent en famille. Et c'est vrai que souvent, les Lillois qui me parlent du musée, avec beaucoup d'amour et beaucoup d'émotion, me disent que c'est... le premier musée qu'ils ont vu, et ils y emmènent leurs enfants, et il est beau, et il est magnifique, et il ne faut pas y toucher, parce qu'il est merveilleux comme ça. Il se trouve que c'est le seul musée d'histoire naturelle de la région. Ça, c'est pour vous dire que la région Nord-Pas-de-Calais, c'est quand même une très grosse région, et donc on a, je veux dire, un potentiel de visiteurs qui est beaucoup plus important que juste la métropole. Mais voilà, aujourd'hui, on n'a pas forcément les moyens d'aller toucher, d'aller faire connaître le musée. Globalement, je veux dire que déjà, beaucoup de Lillois ne connaissent pas le musée d'histoire naturelle de leur propre ville. Mais bon, ça, c'est une autre question. C'est la question de la communication. Je pense que vous aurez l'occasion de réfléchir à ces questions. Donc, l'exposition Identité, c'est une exposition donc, qui a été montée en interne au musée. C'est donc les collections du musée qui sont mises en valeur, comme je vous le disais. C'est donc un commissariat et une scénographie qui sont intégralement faits en interne. C'est-à-dire que c'est un travail entre le responsable des collections d'ethnographie, la responsable du service pédagogique, qui ont conçu, on va dire, le propos de l'exposition. La scénographie a été dessinée en interne, réalisée en interne par l'équipe du musée, ce qui fait que globalement, on est sur une exposition avec un budget qui est assez modeste. Mais vous verrez les images, c'est très réussi. L'ambition de l'exposition, c'est donc, vous avez vu, un public, pour un public qui est essentiellement un public jeune, un public, enfin, j'allais dire scolaire, mais pas que, mais en tout cas, un public qui est dans la découverte des connaissances, du savoir. Donc, c'est véritablement une ambition pédagogique. Et on va dire de façon très, très rapide, mais c'est parler d'ethnologie, expliquer ce que c'est et donner à comprendre pourquoi on a ces collections au sein du musée. C'est aussi, pour moi, globalement, et ça c'est vrai pour toutes nos expositions, c'est une ambition que je vais appeler citoyenne, c'est-à-dire c'est stimuler la curiosité, donner le plaisir du musée. Comme vous avez vu, on a un public qui est très jeune et en fait, il s'avère que je pense que pour beaucoup d'habitants de la ville de Lille et de la métropole, leur visite au musée d'histoire naturelle, c'est le premier contact avec un musée. Et donc, pour moi, on a cette mission de faire que ce premier contact se passe bien, que ce soit un moment de plaisir, parce qu'on a envie de donner le plaisir du musée à nos visiteurs et pour qu'après ils puissent aller découvrir les musées de la région, les musées parisiens. Et donc, voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. Avant de vous parler de la scénographie que vous pouvez voir sur ce petit plan, je vais quand même vous dire un mot des collections. Parce que je crois que je n'ai pas prévu de le dire plus tard. Donc, des collections d'ethnographie. Bon, c'est assez classique que les musées d'histoire naturelle conservent des collections d'ethnographie extra-européennes, parce que les muséums en France, leur création est souvent liée à des saisies révolutionnaires de cabinets de curiosités qui appartenaient à des nobles. Et très souvent, on y retrouve mêlés des naturalia, mais aussi des objets un petit peu exotiques. Ce qui fait que vous retrouvez dans la plupart des musées d'histoire naturelle cette dualité de collection. Alors, il se trouve qu'à Lille, justement, c'est différent. Le musée n'est pas issu de la Révolution, il est plus tardif. Et les collections d'ethnographie, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, ont rejoint le musée au début des années 90 seulement. Cette collection d'ethnographie qui est lilloise, en fait, sur les 13 000 objets que nous conservons aujourd'hui, en fait, à peu près 6 500 proviennent d'une collection ancienne. Alors, quand je dis ancienne, c'est un musée qui a existé dans la seconde partie du 19e siècle à Lille, qui a fermé ses portes quasiment en 1900, même en 1890 exactement, puisque 100 ans après, ces collections qui avaient été conservées dans des caisses, dans des endroits divers et variés, ont été confiées au musée d'histoire naturelle, qui les a sorties des caisses, réinventoriées, etc., et qui les expose aujourd'hui. Cette collection, donc cet ancien musée qu'on appelait le musée d'ethnographie, le musée Moyet, est issu principalement de collections particulières et notamment d'un Lillois qui s'appelait Alphonse Moyet, qui, à sa mort en 1850, lègue sa collection d'ethnographie à la ville de Lille. Alors c'est assez intéressant parce que c'est une collection qu'il va constituer à partir de 1820 à peu près, et jusqu'à sa mort, lui-même n'est pas ethnologue, n'a pas cette démarche de voyager. Il voyage un petit peu, mais principalement en Europe, un tout petit peu au Maghreb. En revanche, il va avoir une démarche de collectionneur. Il va aller voir des marchands, voir des marins, et il achète quantité d'objets. On y retrouve des trésors parce que c'est quelqu'un qui avait quand même, je dirais, au moins un certain goût de l'esthétique et des choses, qui avait un goût sûr. Je le dis notamment, on était un des musées qui conservait une des têtes maories qui ont été restituées il y a un an et demi maintenant. Oui. Et donc voilà, donc c'est vraiment des collections qui sont extrêmement intéressantes, qui en plus ont, pour beaucoup, n'ont pas été exposées depuis la fin du 19e siècle. Et donc pour nous, c'est aussi exposer ces collections, c'est les faire connaître ces pans des collections conservées au musée d'histoire naturelle. C'est aussi, je dois quand même le dire, pour nous une façon différente de parler du musée d'histoire naturelle aux visiteurs qui ne s'intéressent pas forcément à l'histoire naturelle, à nos élus aussi. Donc voilà. Donc ici, vous voyez un plan de l'exposition, donc tout en courbe, réalisé en interne par l'équipe technique. Donc j'espère qu'on voit à peu près. Voilà, donc... Voilà le rendu d'une des, enfin de l'entrée, en fait, j'allais dire une des salles, mais il n'y a qu'une salle, comme vous avez vu. Donc avec des podiums, avec des formes courbes. On ne voit pas très bien ici, mais je vous le dis, la mise à distance qui protège les objets des mains curieuses des visiteurs, c'est en fait du tulle qui est tendu sur une trame, ce qui donne ce rendu un petit peu courbe qu'on peut voir le long de la vitrine de gauche. On s'est rendu compte que ça permettait aussi de faire de très belles photos puisqu'il n'y a aucun reflet sur une surface vitrée. Donc là, ce que vous apercevez sur la gauche, c'est une vitrine avec des objets africains, et au fond, on est sur une zone consacrée à l'Asie, avec un costume de chaman mongol. Ce que je veux dire, c'est qu'on a fait volontairement un choix de présentation géographique et non thématique, sachant que le parcours thématique peut être vécu lors d'une visite guidée, et puis par un petit livret mais que je vous montrerai après. Les textes sont très généraux de fait, je vous les montrerai juste après. Donc voilà encore la suite de l'exposition. Là on voit quasiment tout, hein, la salle est malheureusement très très restreinte. Cela dit, on présentait quand même une centaine d'objets, ce qui est mieux que rien, si je puis dire. Vous pouvez voir que autour des objets, lorsqu'il y avait des éléments, enfin des photos pertinentes, on présentait des photographies des groupes culturels dont on présentait les objets. Les objets présentés, en fait, Certains dataient des collections très anciennes, donc qui avaient été acquises au début du XIXe siècle. Et puis, depuis les années 90, mon prédécesseur avait mené une politique d'acquisition très, très dynamique afin de compléter les collections anciennes qui étaient quand même, on va dire, avec des éléments essentiellement liés à la guerre, aux rites. Et il y a eu un enrichissement afin d'exploiter ou de présenter plus largement, on va dire, les aspects de la vie quotidienne. Donc, des objets anciens, des objets récents, donc des objets qui correspondent à des cultures qui aujourd'hui persistent, qui parfois ont des revendications identitaires d'ailleurs pas anodines. La question de la tête maori, dans ce sens, justement, est assez intéressante. Voilà. Éventuellement, si vous avez des questions tout à l'heure lors de la table ronde, je pourrais vous présenter de façon plus détaillée certains objets. Là, vous voyez un petit peu un texte. Donc, le titre « Relativisme culturel contre hiérarchie des cultures », on est vraiment dans des choses qui sont très larges. On ne rentre pas dans du scientifique pointu. C'est volontaire, c'est-à-dire que nos expositions, on part de l'idée qu'on s'adresse à des enfants de 9 ans, on va dire en moyenne, c'est à peu près nos visiteurs. Ils sont bien sûr accompagnés des parents, et les parents se placent en médiateurs, mais les parents sont des médiateurs un petit peu paresseux, et donc ils lisent les textes, et donc si le texte est trop compliqué, très rapidement, les parents ne se mettent pas à faire eux-mêmes la vulgarisation. Et puis, bref, voilà quelques objets encore de nos collections. Donc, je vous disais, les objectifs, c'est donner des grandes notions d'ethnologie, c'est quoi une culture, qu'est-ce que c'est que l'ethnologie, pourquoi est-ce qu'il y a des collections comme ça dans les musées, pourquoi est-ce qu'il y a des collections comme ça dans un musée d'histoire naturelle. C'est donc aussi faire connaître les collections du musée à nos visiteurs, à nos élus, et faire naître le plaisir du musée. Voilà, encore une autre. Je suis désolée, en fait, c'est le titre est coupé. C'était le premier texte de l'exposition qui évoquait la diversité humaine. Alors, c'est peut-être un message qui est un petit peu tarte à la crème et bateau, mais... voilà, pour nous, c'est quand même des valeurs qu'on porte auprès de nos publics jeunes. Je vais vous parler donc des éléments de médiation qui ont été créés autour de l'exposition Identité. Alors, pour commencer, nous n'avons pas fait de catalogue. D'abord parce que, comme vous avez compris, il n'y a pas un propos scientifique extrêmement poussé dans l'exposition. Deuxièmement, parce que nous n'avons à peu près pas de boutique non plus. Nous avons une vague vitrine dans laquelle on peut choisir des objets à acheter. Troisièmement, parce que même quand on fait des petits livrets à vendre, on s'aperçoit que nos visiteurs ne les achètent pas. Et puis, parce que nous n'avons pas le budget non plus. Vous avez compris que cette exposition, elle n'a pas coûté grand-chose. Et clairement... étant donné le budget de fonctionnement du musée, étant donné le manque d'intérêt d'éventuels mécènes privés pour ce type de structure, je ne peux pas me permettre d'avoir des pratiques trop luxueuses. Donc, on fait les choses simplement. En revanche, on a édité des livrets de visite pour les visiteurs individuels qui étaient distribués gratuitement. Et puis, on a fait un livret de visite pour les enseignants que je vous présenterai, qui était téléchargeable sur notre site internet. Il y avait bien sûr des visites guidées et puis des fameux ateliers de philosophie dont je vous parlerai un petit peu plus, qui étaient une démarche expérimentale pour nous. Enfin, en tout cas, c'était la première fois qu'on faisait ça. Et je vous ferai un petit bilan. Donc voilà, un livret pour les enseignants qui reprenait les textes de l'exposition, la liste des objets présentés, ainsi que certaines photos d'objets et puis des pistes de réflexion sur les élèves, enfin pour les élèves, pardon, pour les professeurs. Le musée, en fait, a en son sein un enseignant détaché qui vient une demi-journée par semaine et qui aide à faire le lien avec l'éducation nationale. Merci. Nous avons fait aussi un livret découverte pour les 7-12 ans. Ça, c'est une démarche qu'on a systématiquement avec toutes nos expositions et ça marche très, très bien. L'idée, c'est véritablement d'inviter l'enfant à être acteur de sa visite dans l'exposition en l'emmenant d'un aspect un petit peu ludique, d'aller d'une vitrine à l'autre pour regarder les objets. On invite à regarder véritablement l'objet et je pense que c'est ça qui est important. On présente des objets, on présente du réel. Et donc, à un moment donné, c'est important de faire comprendre ça. On n'est pas devant la télé à regarder un reportage. On n'est pas devant l'ordinateur à cliquer des photos sur Facebook. On a devant soi un objet réel. Donc, avec, voilà, par exemple, des petits quiz, on invite le jeu des 7 erreurs, faire des petits dessins, etc. Choisir un objet dans l'exposition. Et puis, ce qu'on avait voulu, c'est vrai qu'on avait envie d'avoir une démarche participative dans cette exposition. Et donc, on conclut le livret de cette manière. Et c'est aussi un petit peu ce qui est repris après dans les ateliers de philosophie. Et toi, quel objet emmènerais-tu pour illustrer tes habitudes, ta façon de vivre, etc., etc. C'est-à-dire, poser la question de qu'est-ce qui, moi, me représente comme objet matériel qui représente mon mode de vie, ma culture, mes origines, etc., etc. La visite guidée, très rapidement, classique. Nous avons une médiatrice au musée qui, du coup, faisait des visites principalement pour les scolaires sur réservation pour découvrir les objets de l'exposition et du coup de façon plus thématique que véritablement géographique. Les ateliers de philosophie, donc à destination notamment des scolaires, principalement, ce qu'on avait choisi de faire, c'était de proposer à toutes les écoles lilloises d'envoyer une classe faire un atelier de philosophie au musée. Donc il y a à peu près 40 écoles à Lille, donc on a reçu 40 classes. On a limité ça à des CM1 ou des CM2 parce que ça nous semblait, en termes d'âge, être plus pertinent. Et puis on a fait des déclinaisons pendant les vacances scolaires sous forme d'ateliers parents-enfants où cette fois-ci la famille au complet venait et donc l'idée c'était aussi d'avoir un moment d'échange, de partage pour la famille autour des questions de l'exposition. Alors on a travaillé avec une association lilloise qui est habituée à faire ce type d'atelier, de médiation, une association qui s'appelle Infilo. Le médiateur est quelqu'un qui est un professionnel de la médiation, qui a fait des études de philosophie et qui voilà, est habitué à construire ce type de moments de médiation. Nous, c'est vrai qu'on a orienté cette question sur quel objet te représenterait, quel objet tu aurais envie de, si on devait concevoir une vitrine participative au sein de l'exposition, quel objet serait mis ? Alors, en même temps, l'idée était de créer une émulation, un débat entre les élèves, puisque l'idée était qu'il y ait discussion, argumentation, controverses peut-être. La façon dont les ateliers ont été menés, sur proposition donc du médiateur de l'association Infilo, c'était de partir de cartes. Alors vous voyez là les élèves qui ont ces cartes devant eux. Ces cartes représentaient, il y avait au total une vingtaine de cartes qui représentaient des choses très diverses et variées. Il y avait des objets, il y avait des bâtiments, il y avait des rues, il y avait des animaux. Et l'idée était d'abord de discuter cet objet, qu'est-ce qu'il m'évoque ? Est-ce qu'il me représente ? Est-ce qu'il évoque quelque chose ? Et ensuite, petit à petit, on demandait au groupe d'élèves, deux par deux, puis table par table, d'arriver à un consensus sur les objets, sur les cartes qui leur semblaient être représentatives de la façon dont ils représentaient leur vie, leur environnement, leur milieu, leur culture. Et ensuite, à partir de cet objet, de cette carte, pardon, on demandait de proposer un objet qui ressemblait, enfin qui pourrait être représentatif de ce concept commun qu'ils avaient choisi tous ensemble de façon consensuelle. Je vous montrerai un petit peu après. L'animateur menait le débat, leur posait des questions, creusait, etc. Ce qui est intéressant, c'est que l'équipe du musée a elle aussi suivi un des ateliers. On s'est tous mélangés, agents d'accueil, l'équipe de conservation, l'administratif, et on s'est tous mis dans la peau des élèves et on a essayé de faire émerger quel objet était finalement celui qu'on arrivait consensuellement à choisir pour représenter notre culture. Je vous parlerai un peu des résultats après, vous verrez, parce qu'on a voulu aller plus loin dans la participation. Je vous dis très rapidement, outre ces ateliers, il y a eu aussi une conférence de philosophie, cette fois-ci du costaud. On a travaillé avec un festival qui s'appelle Cité Philo, qui est organisé sur la métropole lilloise. Et donc, nous avons accueilli un philosophe qui s'appelle Vincent Descombes et qui est venu parler des embarras de l'identité. Et c'était un contrepoint vraiment très intéressant à l'exposition. Pour les Journées européennes du patrimoine, on a fait un atelier tatouage maori, un atelier parents-enfants, famille, qui a très bien fonctionné. Il y a eu aussi des démonstrations de danse, etc., etc. Et puis, une ouverture numérique, en fait. Puisque cette question de dire quel objet me représente, quel est l'objet que je voudrais sélectionner, je trouvais que c'était intéressant de mener avec les scolaires, mais en fait, j'avais envie que ce soit quelque chose de véritablement participatif. Alors, j'ai beaucoup réfléchi, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait faire une cabine vidéo où les gens se mettent et disent « Moi, mon objet, c'est, je sais pas quoi, une cafetière ou... » Bon, c'était un peu compliqué à mettre et j'avais pas les moyens. Je me suis dit, je vais mettre un grand mur où les gens pourront coller des post-it, peut-être mettre des photos. Mais en fait, bon, nos expériences avec les livres d'or, on sait que très rapidement, il y a du bon et il y a du mauvais. Et donc, je me voyais pas passer tous les matins pour enlever les mots un peu obscènes, etc. Bon. Donc, l'idée, ça a été d'utiliser... un médium virtuel, et en l'occurrence Facebook, puisque le musée est sur Facebook, et qu'on s'est dit, voilà, c'est un outil comme un autre. On voulait un outil où les gens pouvaient publier des photos de façon libre, sur lesquelles on pouvait avoir éventuellement une censure, puisqu'on n'était jamais trop sûr de ce qui pouvait être mis. Enfin, je dis censure, contrôle, excusez-moi, c'est en... on avait mis dans un coin une vitrine avec un objet européen. On a quelques objets européens dans nos collections, mais en réalité très peu, puisque les créateurs de ces collections s'intéressaient évidemment à cette forme, ces cultures lointaines, des cultures un peu exotiques, et on a très peu de collections régionales ou françaises. Donc, on avait trouvé un très joli bonnet corse du 19e siècle qu'on avait mis dans une vitrine, et puis avec ce panneau où on disait « Et si on constituait une collection européenne virtuelle ?» avec un flashcode qui envoyait sur le groupe qui avait été créé qui invitait les visiteurs à poster. Alors, pour tout vous dire, ça a été un four total. Ça n'a pas du tout marché. Je pense que on a mal évalué peut-être le rapport au numérique de nos visiteurs. Peut-être que le smartphone, le flashcode, Facebook, on est sur un public qui est plutôt de jeunes adultes. Et globalement, quand je vous ai dit 60% des visiteurs ont moins de 25 ans, ils sont quand même beaucoup plus dans la tranche, 3-14 ans, que dans la tranche 14-25. Et ce qui fait que, globalement, il n'y a quasiment pas eu de participation. Donc, on a utilisé le groupe Facebook pour poster les choix des différentes classes, les choix suite aux ateliers de philosophie. Donc, c'est pour ça que vous retrouvez Cyril Blondel, qui était l'animateur, qui régulièrement a mis à jour le Facebook. Les résultats sont un peu surprenants, d'ailleurs, quand on voit quel est le choix qui a émergé, puisque principalement l'objet qui a été choisi, c'est une alliance. Il y avait une représentation de mariage qui, pourtant, était très basique et qui pourrait, aujourd'hui, tous les mariages sont comme ça, mais en tout cas, pour les élèves de primaire, c'était quelque chose qui était commun, peut-être un dénominateur commun parce qu'il y avait aussi des origines culturelles très diverses. La cigarette, la voiture, et puis la religion où, même si on avait des classes avec, des pratiques religieuses qui étaient probablement très diverses, c'est quand même beaucoup une croix, un crucifix qui a été choisi. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Enfin, globalement, c'est une exposition qui a eu beaucoup de visiteurs. C'est une exposition qui a eu, de ce qu'on a pu évaluer sur le Livre d'Or, qui a eu un retour très positif. Et puis, maintenant, on a rangé les collections d'ethnographie et on se prépare à parler de l'homme de Néandertal cette année. Voilà, merci.